lire un passage dans la première épître aux Corinthiens. C'est une église compliquée, hein, d'accord, l'église de Corinthe. Très compliquée. Quand on lit les textes, on peut voir que ce qui se passait dès les premières années du développement de l'église, les choses étaient semblables à celles qu'on peut vivre aujourd'hui. Et qu'on a à prendre conscience que l'unité n'est pas toujours ce qui est vécu, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible parce qu'il est grand, il est puissant, il convainc de péché, oui, nos frères et sœurs, moi-même, de ce que parfois nous sommes un peu en dehors de ce que le plan de Dieu exige. Et je voudrais vous partager cela ce matin à travers ce passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, et à partir du verset 26. Alors, il ne s'adresse qu'à des hommes ici, c'est bizarre quand même. Bon, je vous adresse à vous, mesdames, aussi, en même temps. Considérez, frères, et j'adviendrai, sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous, ou pour nous, sagesse, et justice, et sanctification, et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Prions un instant. Seigneur, conduis-nous ce matin, à travers ce texte. Moi, en premier, et tous mes frères et sœurs ici présents. Pour que nous puissions être encouragés, renouvelés, fortifiés à travers ta parole. Et que nous puissions être heureux de ce que nous sommes pour te servir toi, pour te glorifier toi, pour t'honorer toi et toi seul. Merci pour ce matin et loué sois-tu. Amen. Amen. Qui sommes-nous ? Des sages, des puissants, des nobles, comme le monde le conçoit. On voit aujourd'hui, à travers dans notre pays, les bouleversements qui se passent. Bon, je ne veux pas faire de politique, mais quand même, on est en face à des situations dans lesquelles il y a des contestations par rapport à, surtout, les élites. Qui sont les élites, d'ailleurs ? Et des désirs profonds de changement, de transformation. Mais sans payer le prix. Puis certains vont le payer peut-être, mais pour d'autres, ils ont soif de tout sans rien payer. Je voyais l'autre jour un article sur un journal, un petit passage, un homme depuis 43 ans jouait au loto. Et puis voilà que les bons numéros sortent et qu'il gagne le gros lot. Et il va voir en premier sa fille en lui apportant un paquet de beurre. Sa fille lui disait depuis des années, tu veux tout, le beurre et l'argent du beurre. Et puis il a dit, maintenant aussi je prendrai soin des miens, et etc., etc. Bon, vous savez, moi je n'ai jamais joué au jeu de hasard. Parce que Dieu me suffit. Dieu me suffit et ce que je reçois de lui me réjouit. Quand on voit aujourd'hui la convoitise, le désir profond des uns et des autres de posséder, d'avoir, la jalousie qui est manifestée, toutes ces choses autour de nous qui montrent le désarroi intérieur des hommes et des femmes, qui ne connaissent pas Dieu, qui l'ignorent même, qui aujourd'hui, dans notre génération qui vient, Beaucoup ignorent qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. C'est quand même terrible quand on se rend compte de cela. Que en moins de 2000 ans, le paganisme reprend ses droits. Mais nous, nous voulons vivre et marcher comme Dieu nous l'a montré. Et depuis des années, et même et peut-être il n'y a pas longtemps, mais nous avons eu un changement de vie, une transformation de vie. Il n'y a pas au milieu de nous, c'est vrai, des hommes, des sages, des puissants, simplement des gens simples qui veulent marcher avec Dieu. Ordinaires, mais au fond, extraordinaires. Combien d'hommes ordinaires qui ont rencontré Jésus sont devenus des héros de la foi, qui ont été en somme transformés d'une façon extraordinaire, tout en gardant à l'esprit l'humilité et la simplicité. C'est ce qu'on a besoin de retrouver, de trouver les uns et les autres dans nos vies de chaque jour, être ces hommes simples et ces femmes simples qui aiment Dieu et qui le servent et qui l'honorent. Des hommes, des femmes transformés, je le disais tout de suite, des hommes et des femmes qui sont devenus d'autres hommes et d'autres femmes. Je veux dire même des enfants, des vieillards. Dieu touche encore aujourd'hui des hommes comme autrefois. Quand nous regardons le choix de Jésus pour ses apôtres, qui a-t-il choisi? Des pêcheurs, oui. Et même des pêcheurs aussi, dans le sens réel, de pêcher les poissons. Quand on voit Jean, on voit Pierre, on voit Jacques, et encore d'autres. Quand ils ont commencé à ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile, ils ont dit, mais qui sont ces hommes? Ce sont des simples Galiléens, sans instruction. Et ils nous enseignent. Eh oui. Parce qu'ils avaient reçu dans leur vie, dans leur cœur, de telles choses, dans le contact qu'ils avaient eu avec Jésus et par l'effusion de l'Esprit, de pouvoir parler des choses de Dieu avec autorité et puissance. Les pharisiens connaissaient beaucoup de choses, les scribes aussi. Seulement, ils le vivaient non pas selon l'Esprit, mais selon la chair. Et ces hommes qui étaient au bord du lac de Tibériade, qui ont rencontré Jésus et qui l'ont suivi, ils n'ont pas eu peur de le suivre. Ils ont été transformés. C'était des gens simples. Sans instruction, ignorants. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de gens sont ignorants, mais lorsque Dieu vient dans leur vie, la connaissance de la parole de Dieu vient. Quand je feuilletais tout à l'heure ma Bible, tous ces versets, toutes ces choses qu'on a pu lire, qu'on a pu garder en cœur, dans le cœur, qui nous viennent à la mémoire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir tous ces mots qui sont là. On pourrait faire des messages sur une ligne de l'Écriture, une ligne. Tellement on peut être touché et transformé par cette ligne qui a fait de nous des hommes et des femmes différents. Pierre était un roc inébranlable, rocher. Jean et André, c'était aussi les fils du tonnerre. Et Jacques, les fils du tonnerre. Ouh. Je parlais tout à l'heure dans un chant, l'orage, les éclairs, le tonnerre. Jean était le disciple que Jésus aimait. Et quand on regarde ce que disait Pierre à la fin de l'évangile de Jean, il disait, mais lui, là, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que, hein, il y avait un peu de jalousie toujours dans le cœur, même des disciples qui étaient consacrés, qui aimaient vraiment Dieu. Il dit, t'en fais pas, hein, t'en fais pas. Toi, fais ce que tu as à faire, moi je m'occupe de lui. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Oh, il y avait dans ceux qui ont suivi les apôtres, ensuite, il y avait quand même un personnage particulier, c'est Paul. Ça, c'était un sage, un lettré, quelqu'un qui avait une connaissance énorme de l'Écriture, qui avait eu un enseignement extraordinaire. qui étaient zélés pour Dieu selon la loi, qui persécutaient l'Église et qui d'un coup rencontrent Jésus sur le chemin de Damas, et tout change. Il a dit lui-même, tout ce que je connaissais d'avant, je le considère comme de la boue. Ça ne me sert de rien aujourd'hui. Ce qui me sert, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'apporte dans le quotidien de ma vie. Oui, on voit tous ces hommes et ces femmes qui ont vécu dans tous les siècles précédents et qui ont été aussi transformés, changés. Je l'ai dit déjà ici, quand je parle à Spurgeon, quand on pense à Spurgeon, ce gamin de 15 ans, qui était tourmenté et qui disait, c'était un fils de pasteur, et qui disait, je n'irai jamais au ciel parce que je suis trop mauvais. Il croyait que pour lui, la vie éternelle lui était refusée. Rendez-vous compte. On l'entend encore aujourd'hui, cette chose aussi. Parmi des jeunes qui sont dans des tourments intérieurs et qui n'ont rien trouvé, qui cherchent pourtant et qui cherchent. Mais il suffit de la parole d'un pauvre laboureur, je crois, ou c'était pas un cordonnier, ou dans un village où il va pour écouter l'évangile, parce qu'il cherchait. Parmi nous, ici, nombreux ont cherché. Ont cherché de lieu en lieu, toutes sortes d'activités spirituelles, ou spirites même, sans rien trouver. Puis un jour, ils viennent ici, ou ils viennent ailleurs, une parole est donnée, hop, tout est changé. C'est ça qui est merveilleux. Dans les vies, Dieu rentre. Et ce garçon, on lui dit, tu as l'air bien malheureux, mon petit gamin, là. Et tu seras toujours malheureux si tu continues dans cette direction. Et il lui cite un texte que j'ai ici, dans Isaïe 45, 22. Le texte dit, regardez à moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez à moi. Et il lui dit, si tu regardes à Jésus, tu seras sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui. Et cela se réalise. Transformation d'une vie d'un garçon qui deviendra très rapidement un garçon rempli de la puissance de Dieu. Je n'étais pas charismatique de l'époque, mais il était rempli de l'Esprit de Dieu dans la compréhension de l'Écriture et dans l'expression de l'Écriture. Il est devenu à 19 ans le pasteur d'une église importante à Londres. 19 ans. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, n'ayez pas peur. Si Dieu veut qu'on vous conduire et vous donner la capacité, la qualité de pouvoir exprimer votre foi, obéissez. C'est un acte d'obéissance, ce n'est pas un acte de prétention. Mais c'est obéir simplement à ce que Dieu veut vous faire faire dans le monde aujourd'hui. Partout où vous êtes des témoins. Des gens simples. Pas toujours besoin d'être des étudiants avec un master ou d'avoir un doctorat avec Bac plus 11. L'important, c'est que si on a la foi, on peut déplacer les montagnes. Et qu'on peut voir la puissance de Dieu manifestée. Y a-t-il parmi vous des sages, des nobles ou des gens simples qui aiment le Seigneur? Spurgeon, c'est un exemple. Oh, il y en a d'autres. Ceux qui ont reçu vraiment l'appel de Dieu dans leur vie. Depuis les temps apostoliques, il y en a eu. Prenons l'exemple des Vaudois. Les Vaudois, depuis 70, après Jésus-Christ, jusqu'à 1700, ont vécu dans les montagnes des Alpes, dans les Alpes, dans des vallées isolées, utilisant l'Écriture, la parole de Dieu, sans contact avec l'Église dominante. Ils étaient persécutés, mais ils suivaient la parole pendant, rendez-vous compte, presque 17 siècles. Dans l'isolement, mais dans l'amour, et ensuite ça a éclaté ensuite. C'était là, ça ne poussait pas peut-être, puis ça s'est développé. Les pauvres de Lyon, avec Valdo. Ce n'était pas encore la réforme. de 1160 à 1318. Ce groupe de chrétiens engagés dans l'écrit, qui connaissaient la parole de Dieu, qui voulaient vivre la parole de Dieu et simplement la parole de Dieu, sans suivre les traditions, ont prospéré. Un sage, Wycliffe, qui était professeur à Oxford, était le premier à traduire une partie de la Bible. Quel scandale ! En anglais, ou l'anglais de l'époque, puisque tout devait être lu en... Quelle langue ? En latin. C'était la langue divine. Oh ! L'Empire romain... Jean Hus, docteur en théologie, était aussi quelqu'un qui connaissait l'Écriture, mais qui est mort. Il a été brûlé à cause de l'annonce de la parole de Dieu. Les frères de Bohème et d'autres, les anabaptistes. Quand la réforme est venue, les anabaptistes ont été persécutés et à la fois par les huguenots et à la fois par les catholiques. Parce qu'ils prenaient le baptême des adultes. C'était l'Écriture. Ce qui était dit dans l'Écriture, ils l'avaient compris, ils l'ont appliqué. Ils n'ont pas cherché à changer les choses. Les Wesley, William Carey, un cordonnier qui a créé une des plus grandes missions en Angleterre. Bunyan, celui qui a écrit Le voyage du pèlerin. Cet homme qui finalement était en prison et il a écrit ce livre avec des versets de la Bible de mémoire, dans la prison, éclairé par le Saint-Esprit. Des gens simples. George Müller, avec ses orphelinats. Darby. On parle de la Bible Darby. Au départ, cet homme, il a décidé de dire « Pourquoi sommes-nous si divisés que nous ne pouvons pas ensemble partager la Sainte-Seine ?» Il y avait les baptistes, il y avait les puritains, il y avait etc., etc. Il y avait les anglicans, toutes sortes de confessions chrétiennes qui s'attachaient à certains termes plutôt qu'à d'autres et qui étaient divisées. Et ils ont été invités à venir prendre la Sainte-Seine ensemble. Mais, au fil des années, les disciples d'Arby ont changé la donne. Ils ont dit, il n'y a que nous qui pouvons prendre la Sainte-Seine ensemble, pas les autres. Et on voit dans des églises où la Sainte-Seine est prise avant le culte pour ne pas se souiller. Je dis, scandale. Parce que Dieu aime tous ceux qui s'approchent de lui et qui veulent le servir et l'honorer ensemble. Et combien d'autres ? Un peu plus près, si je pense à un pasteur qui était parmi nous il y a des années, il est décédé, c'est André Benzi, tel qu'ils l'ont connu. La première fois qu'il est allé dans une église évangélique en Suisse, dans la partie italienne, il est allé en vélo pour voir ce que c'était, parce qu'il avait entendu parler d'une église évangélique qui était dans le secteur. Il est entré. Et il a été vraiment touché par Dieu. Et on lui a quand même donné la Sainte-Seine. Il s'est levé dans l'église, il avait touché l'inspiration de Dieu, et puis il avait pris la Sainte-Seine. Si on ne lui avait pas donné, il ne serait plus jamais revenu. Mais on lui a accordé, c'est une occasion extraordinaire peut-être, c'était vraiment conduit par Dieu et non pas par les hommes, et sa vie a été transformée, changée, du tout au tout. Il est devenu un homme rempli du feu de Dieu qui a désiré tellement le servir qu'il a tout abandonné, son métier et tout le reste, et puis il est parti du côté d'Yverdon, pour être auprès d'un pasteur, pour être formé. Et je me rappelle toujours quand il parlait me rappelle encore de cette anecdote quand il disait qu'il un jour, il était à Reims, il faisait une campagne d'évangélisation, et puis tous les gens autour étaient sous un chapiteau, et les gens disaient ah, « on va l'avoir celui-là ». Personne n'était dans la salle, personne n'est rentré dans le... Et on a poussé une dame qui était aveugle. On l'a fait rentrer. On va voir s'il va guérir. Et quand elle avançait dans la salle, elle dit « Je vois, je vois, je vois, je vois. » Et la salle est remplie en 5 minutes. Parce qu'il y a eu la puissance de Dieu manifestée sans qu'il y ait une imposition de main, sans qu'il y ait une injonction quelconque. Dieu avait guéri cette femme qui rentrait dans un lieu où il était présent et il régnait. Et il voulait mettre, il ne voulait pas que son nom soit moqué. Et cette femme était guérie et il y a eu d'autres guérisons. C'était des choses de notre génération, quasiment. Et on en voit d'autres aujourd'hui. On ne les connaît pas tous. Mais combien dans des églises, dans des lieux un peu partout en France et à l'étranger, dans le monde, il y a des choses extraordinaires qui se passent par des gens tout simples. Des hommes et des femmes qui ont été touchés par Dieu et qui, remplis de Dieu, apportent la parole de Dieu, mais il y a la guérison, la délivrance, les miracles qui s'accomplissent. Quand nous sommes allés en Centrafrique de 88 à 97, on a vu des miracles. On y a participé. Parce que l'Esprit de Dieu agissait avec puissance. Seigneur, il faut que au milieu de nous aussi, cet Esprit se manifeste avec puissance. Dans toutes les vies, dans nos vies à chacun ici, que nous puissions nous laisser conduire par Dieu et ne pas rester dans une apathie. Dans une forme, finalement, d'habitude, de tradition. Quand la tradition entre dans l'Église, attention. Quand les églises deviennent traditionnelles, quand les églises perdent le feu, alors attention. Est-ce que nous pouvons prévoir quelque gloire quelconque ? Non, simplement, c'est Dieu qui utilise chacun de nous. Nous sommes des instruments dans sa main. Des instruments qu'il affûte, qu'il aiguise. Parfois, c'est douloureux, hein ? Si on vous taille dedans un peu, si on taille dans votre vie et on vous envoie quelque chose, comme Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Vous n'allez pas le faire, j'espère, quand même. Mais dans le sens spirituel du terme. Les yeux, c'est souvent le moyen de... qu'utilise la convoitise. Quand on parle d'Acan, qui était après la prise de Jéricho, et qu'il était dans sa tente, il avait vu dans la ville, j'ai vu, a-t-il dit, j'ai convoité et j'ai pris. Que notre regard se détourne, ce qui peut nous tenter. Mais c'est avec la puissance de Dieu, avec la capacité de Dieu, qu'on peut le faire. Vous savez, des fois, ça met du temps. Ça met du temps. Vous savez, moi j'ai vécu des choses comme ça. Et quand Dieu agit, il agit avec puissance et il nous met dans la position d'humiliation et d'humilité dans laquelle nous acceptons et nous reconnaissons que nous sommes dans l'erreur. Et que tout ce que nous pouvons dire et faire n'est plus ce que Dieu voulait. Quand nous regardons Jésus, il a pris notre humanité et notre fragilité. Son vêtement, une simple robe, aux pieds, les sandales. Il marchait sur les chemins de la Palestine, allait de lieu en lieu. Il ne cherchait pas à être honoré, il fuyait au contraire les honneurs. Lorsqu'il est rentré dans Jérusalem sur l'âne, Hosanna, Hosanna, c'est le roi qui rentre dans la ville. Il savait quelle était la suite, parce que une semaine après, il était crucifié. Fragile, faible, physiquement. Alors qu'il avait toute l'autorité. Quand il a été arrêté en sortie du jardin de Gethsémani, il a dit qu'il aurait pu, en somme, avoir une légion d'anges pour chasser tous ceux qui étaient là et pour finalement être libre. Mais il a préféré d'accomplir la volonté de son père. C'est une contradiction. La puissance de Dieu et lui qui se laisse faire. Quand les hommes et les femmes qui étaient au bas, là, près de la croix, descendent de la croix, toi-même, toi qui as guéri, qui as sauvé des hommes et des femmes, alors qu'est-ce que tu attends pour te sortir de là? Une moquerie. Puissance, l'autorité, la capacité. Il en avait. Mais il est resté dans une forme de, on peut dire plus que d'humilité, mais d'excessive faiblesse, fragile. Quand Jésus nous dit, si on vous frappe la joue droite, tendez l'autre. Quelqu'un a dit, deux fois ça va, trois fois, pas question. Mais quand il vous arrive une épreuve, une difficulté, il faut l'accepter pour aller plus loin. Dans ce texte, on parle, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les choses faibles du monde. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, l'impression que c'est ces paroles, hein. Mais ce n'est pas des paroles qui sont conduites par Dieu. Ce n'est pas simplement la convoitise et le désir de posséder pour certains, et la jalousie, l'amertume, la colère, la rage. N'oublions pas que l'Évangile s'est développé dans le bassin méditerranéen à une vitesse folle, sans armes, sans cris, sans désir de posséder, simplement le désir d'annoncer. L'Empire romain, il y avait des légions qui combattaient les barbares et qui combattaient les chrétiens. Dans une des légions, il y avait un officier supérieur, je ne sais pas si c'est un centenier, ou qui avait reçu vraiment Christ dans sa vie et qui était là dans cette légion. Et un jour, dans une région très froide, au bord d'un étang ou d'un, là, qui était gelé, on a amené des chrétiens qu'on avait capturés, on les a mis sur cet étang, nus, et on leur a dit, si vous reniez votre foi, vous êtes libre. Si vous reniez votre foi, vous êtes libre. Et ce centenier qui était là, qui était lui, qui avait rencontré Christ, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il a défait son armure, il a enlevé son casque, il s'est déshabillé, il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui étaient sur cet étang. Il est mort. Mais il a manifesté que même s'il avait une autorité, une capacité, il était quelqu'un parmi les forts, il préférait la faiblesse du serviteur de Dieu que la force du soldat. Mais sa vie, il a donné. Il a abandonné. C'est un témoignage. Ces choses ont bouleversé la Légion. Et ça fait réfléchir. Les choses viles du monde défont les choses fortes du monde. Jésus a dit, si vous faites ce que vous devez faire, vous êtes des serviteurs inutile. C'est grave. J'ai l'impression que ce qu'il dit n'est pas juste. Mais Dieu peut utiliser qui veut, comme il veut, quand il veut. Et nous avons à réfléchir, frères et sœurs, à cela dans notre vie de tous les jours et dans nos relations aussi entre nous, dans la communion fraternelle, dans le désir profond de s'entraider, de se fortifier, de s'encourager, d'aller plus loin, de prier ensemble, de faire le bon combat, de la foi. Nous pouvons prétendre à aucune gloire. On rappelle qu'il y a quelques années, quand l'Église a grandi, un pasteur, un frère qui m'a dit « Mais comment tu as fait ?» Moi ? J'ai dit « Moi ? J'ai rien fait. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi et qui a fait que les choses ont changé. On n'a pas à avoir de glorification avant. On ne peut pas être pasteur d'une église de 5000 personnes ou de 10 000 personnes ou de 100 personnes ou de 20 personnes. Ou même de 10. Ce qui est important, c'est ce qui est vécu dans cette communauté. Dimanche dernier, j'étais à Lussanger, on était une douzaine de personnes. Qu'est-ce que cela ? Moi, je me dis, je me réjouis de pouvoir partager à des frères et sœurs ce que Dieu veut me donner pour eux, pour qu'ils aillent plus loin. On a bien commencé tout petit ici, hein ? Alors, c'est Dieu qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre volonté qui s'exerce, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors, frères et sœurs, où en sommes-nous ? Nous avons besoin de marcher en suivant les pas de celui qui nous a précédés, de Jésus, et de vivre les choses simplement avec lui. Il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Tous ces termes-là, je me rappelle que Robert avait prêché là, sur ce thème. Mais moi, je me dis, surtout, venir. Nous sommes simplement que des êtres humains bien faibles et bien fragiles, même si nous avons beaucoup de connaissances, de capacités, de qualités. Ce qui importe, c'est notre foi manifestée. Et que nous ne soyons pas en essayant de dominer, mais plutôt de fortifier, encourager, exhorter, aller plus loin. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Il veut nous donner les forces dont nous avons besoin pour aller plus loin. Il y a un texte dans ce premier épître aux Corinthiens, chapitre 18, verset 18, dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, etc. » On trouve toujours dans cette image que je viens de partager avec vous. Soyons ceux qui marchent avec Dieu et qui veulent le servir, quels que soient nos diplômes, nos capacités, nos qualités, de tout genre. Soyons simplement ces serviteurs que Dieu a besoin pour notre époque aujourd'hui, pour gagner du terrain face à l'adversaire. Parce que l'adversaire est en train de travailler avec énergie. Enfin, quelqu'un, un jour, était dans le train, et puis il voyait une personne qui était en train de prier ou autre, et puis à côté, alors, il lui adresse, « Vous êtes chrétienne ?»« Moi, non. 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 Je suis une sataniste. » Et je suis en train de prier pour que l'Église soit détruite. Oh ! Quelle audace ! Parfois, on peut se tromper sur les personnes. Vous savez, il y a des personnes, parfois, qui sont amenées dans les Églises pour les détruire. Il y a des années, dans une Église qui était sur Brest, c'est la personne qui dirigeait la louange, était une femme qui avait été en somme enseignée en Côte d'Ivoire par une nounou qui était sorcière. Les parents n'avaient rien vu, missionnaire. Rien vu, rien su. Mais cette femme était tout enfant avait été enseigné et déformé, envoûté, on peut dire, par cette sorcière pour qu'elle puisse détruire l'église où elle irait. Elle a réussi. Elle a été dévoilée à un moment donné. Donc, pas de louange, c'est fini. Seulement, le pasteur qui a suivi, qui est venu après, lui, il l'a rétabli. Manque de sagesse, manque de discernement. Il n'avait pas entendu, il n'avait pas écouté ce qui avait été dit. Eh ben, l'église s'est vidée carrément. Hop, plus personne. Le diable avait réussi sa tâche par l'intermédiaire de cette femme. Frères et sœurs, soyons vigilants. Mais nous ne regardons pas, en nous examinant les uns les autres pour savoir s'il y a quelqu'un qui est, à Dieu, qui est au diable ou à Dieu. Hein. Attention, attention, je me mets en garde. Parce que si la suspicion s'installe partout dans l'Église, ça devient dramatique. Et que nous puissions marcher les uns les autres avec foi dans notre vie de tous les jours, nous recevant, nous aimant, nous encourageant, nous fortifiant les uns les autres pour aller plus loin sur le chemin qui mène à Dieu. On a encore un avenir. Moi, je dis, j'ai un avenir. Vous croyez que j'ai un avenir ? Oh, merci. Mais pour les plus jeunes, il y a encore un avenir plus loin, plus long et plus long. Alors, priez pour mon avenir, et l'avenir de Marie-Thérèse et moi, et que nous puissions continuer toujours à honorer et à servir le Dieu, le Seigneur, comme nous pouvons, pour la gloire de son nom. Soyons encouragés. Et je vous invite, je dis encore, je vais répéter, parce que chaque fois que je arrive ici, venez donc à la réunion de prière pour combattre le bon combat. Ce n'est pas simplement pour exprimer nos petits besoins. Je dis petits besoins, peut-être, là je serai attention, je serai peut-être comme notre président qui dit des paroles comme ça, et tout de suite après on les interprète. Hein. Non. Nous avons des besoins, c'est vrai, mais il y a des plus grands besoins que cela. Et l'Église a besoin que l'on prie pour elle, pour sa stabilité, pour son engagement, pour son désir profond d'aller plus loin, d'honorer le Seigneur à tous égards, partout où nous sommes. Parce que ce n'est pas simplement le lieu ici, c'est partout où vous passez. Où Dieu vous met, et on peut avoir des gens qui vous observent, et qui vous observent dans votre comportement, votre attitude, et qui pourraient dire, celui-là, il se dit chrétien, oh, je n'ai pas envie de le suivre, hein, parce qu'il ne vit pas ce qu'il dit. Vivons ce que nous disons et proclamons l'amour de Dieu dans un monde aujourd'hui perdu. Amen. On prie. Seigneur, ce matin, nous voulons nous confier en toi pour chacun d'entre nous. Que nos paroles, que nos actes, que nos comportements, que notre attitude du quotidien puissent t'honorer, Seigneur. Et si nous commettons des erreurs, des fautes, éclaire-nous, s'il te plaît. Et aide-nous à avoir une vie qui t'honore et te glorifie, à tous égards. Ce matin, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils soient encouragés et fortifiés dans leur faiblesse, dans leur fragilité, à conduire et à mener leur vie sur le chemin que tu as tracé devant eux. Comme un chant dit, si le chemin est rocailleux, si les choses sont difficiles à passer, le Saint-Esprit nous éclairera et Jésus nous conduira. Merci pour cette vie merveilleuse que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Oui, nous voulons dire que c'est des vies merveilleuses en toi, même s'il y a des difficultés dans le sens matériel ou autre. Seigneur, tu pourvois nos besoins. Tu pourvois nos besoins et tu conduis chacun de nous à te remercier, à te bénir, à te louer, à t'adorer et à te servir. Merci pour ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Amen.